Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Jamais satisfait. Quel espoir, jamais satisfait, quel espoir. Ceci, bien entendu, nous conduit à réfléchir sur ce qu'est l'homme et sur le sens de son existence sur cette terre. Et en parlant de cette façon-là, bien entendu, il s'agit de grandes questions, je dirais de questions fondamentales. Ce qui est curieux très souvent, c'est que nous accusions une existence tous les jours, qu'elle se passe dans des tourbillons de vie quotidienne ou de façon tranquille, nous acceptons une existence sans trop la comprendre, sans trop la creuser pour savoir en fait d'abord qui nous sommes. Quel chemin emprunter, quelle définition nous donner, à quoi cela ressemble-t-il? Et je pose d'entrée de jeu la question suivante. Comment connaître, éprouver une existence qui réellement vaut la peine d'être vécue, quand très souvent nous ignorons jusqu'à ce que nous sommes? Pour beaucoup, nous sommes des animaux améliorés. La bête qui a évolué, n'est-ce pas? Pour d'autres, nous sommes ceci, nous sommes cela, etc. Et ainsi, nous voilà complètement égarés, perdus, errant ça et là à la recherche réellement d'un sens à notre existence qui soit réellement solide et valable. Alors, essayons d'entendre, d'écouter ensemble ce que dit la parole de Dieu. Nous lisons un premier texte en Ésaïe 45. À partir du verset 9e, c'est Dieu qui parle. Oh, quand Dieu parle, il est tellement important de nous mettre à son écoute et de lui être attentif. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Et plus que jamais aujourd'hui, les hommes contestent avec lui. Vase parmi les vases de terre. Voilà donc comment l'homme est qualifié dans la parole de Dieu. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Puis ces paroles toutes solennelles qui suivent. C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est Dieu qui parle. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toutes leurs armées. Et nous poursuivons la lecture au verset 22e, uniquement le verset 22, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Le verset 23, une partie en tout cas. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. C'est Dieu qui parle. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Oh, que c'est solennel. Nous lisons maintenant quelques autres textes. Toujours dans ce merveilleux livre d'Ésaïe le prophète, à partir au chapitre 59, à partir du verset 8e. Des textes d'une actualité remarquable. Je vous laisse au passage apprécier l'actualité de ce livre. Bon, le livre d'Ésaïe le prophète, dans lequel nous sommes en train de lire, a été écrit voilà quelques 2700 ans. Hein, pour vous dire à peu près, vous donner une date approximative. Alors, que dit ce livre? Il, verset 8 du chapitre 59, ce sont les hommes. Les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Nous consacrerons une soirée à parler justement de cette justice qui nous fait tellement défaut parmi les hommes aujourd'hui. Ils prennent des sentiers détournés, les hommes, hein. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu des yeux. Hein. Nous chancelons à midi comme de nuit. C'est tout à fait ce que notre monde aujourd'hui connaît. Et au milieu de l'abondance, ça c'est pour notre Occident, dit Chrétien, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Hein que c'est vrai. Pas simplement les Français, mais aussi les Belges, hein. Nous grondons tous comme des ours et nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Où est-elle? Un Parisien me disait il y a peu de temps, la vérité, elle est au fond de la marmite. Quelle marmite? D'autres vous disent, la vérité, elle est au fond du puits. Et personne ne peut y accéder. Et celui qui s'éloigne du mal, c'est la Bible qui poursuit, celui qui s'éloigne du mal, c'est-à-dire qui veut vivre droitement, honnêtement, aujourd'hui est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Oh, des textes qui nous concernent tellement de nos jours. Et puis, encore un autre texte au livre du prophète Agée, qui précisément traite un peu de notre sujet. Ce prophète Agée avait été suscité par l'Éternel pour parler en ce temps-là au peuple d'Israël en ces termes. Chapitre 1er, verset 5. « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. » Considérez attentivement vos voies. Et nous sommes appelés aussi, qui que nous soyons, à considérer attentivement nos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud, et votre salaire, hein, tombe comme dans un sac percé. Oh, mais que ceci rejoint encore ce que nous connaissons, hein, d'actualité aujourd'hui, au niveau de notre Occident, qui connaît une abondance remarquable et qui n'en a jamais assez. Toujours insatisfait. Quelle réponse! Et puis pour finir alors ces textes de 1 Corinthiens 16 qui sont un encouragement de Dieu. Verset 23e. Veillez, 1 Corinthiens 16, 23. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Oh, Dieu nous demande d'être de vrais hommes ce soir. Hein. Alors, nous allons essayer de voir ce que Dieu entend par l'homme véritable. Hein. Soyez des hommes. Fortifiez-vous que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Oh, dites-moi, si tous les hommes sur la terre aujourd'hui, s'ils faisaient tout leur ouvrage avec amour, oui, jusqu'en Bosnie-Herzégovine, et jusque dans ces pays aussi où la guerre sévit, où la famine sévit, nous vivrions tout autre chose. Je répète ce verset de Dieu. Veillez. Veillez parce que nous sommes dans des temps excessivement solennels et sérieux. Demeurez ferme dans la foi. Ah, une définition de l'homme. Hein. Aux yeux de Dieu, hein, l'homme véritable est celui qui, devant lui, se situe dans la foi. Fortifiez-vous. C'est donc quelqu'un qui compte sur la force de Dieu pour tous les jours. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Je ne sais si l'homme espère un jour pouvoir établir ce genre de choses sur la surface de la terre. Ce genre de choses n'existera jamais en dehors de Christ. Ah, nous vivons un siècle absolument étourdissant de conquêtes, époustouflant de progrès, à nous donner littéralement le vertige. Et ces dernières décennies l'ont changé de façon considérable. Nous vivons une fin de siècle, au plan scientifique par exemple, et sur d'autres plans, absolument fascinante. Donc, par certains côtés, éblouissant ce siècle, mais par d'autres, tellement dangereux qu'ils mettent en jeu la survie de la terre en même temps que des hommes sur la surface de la terre. Mais il faut absolument convenir que, en cherchant à se mettre à l'aise dans ce monde, l'homme s'est donné, surtout dans notre Occident, un confort matériel comme jamais précédemment dans toute son histoire. Il vit mieux que jamais, plus que jamais au plan matériel. Pourtant, nos savants, quels qu'ils soient, affirment que les plus grandes détresses morales sont couramment rencontrées justement dans les pays riches. Et il y a un tel mal de vivre dans ces pays que très souvent l'occidental, l'homme moderne, a perdu tout goût de vivre, tout appétit de vivre. Tandis que dans les pays en voie de développement, oui, tandis que dans ces pays où sévit une famine, quand nous pensons par exemple qu'aujourd'hui, dans ce seul jour du 10 septembre 92, 40 000 enfants sont morts de faim. 40 000 enfants sont morts de faim. Nous aurions de quoi nous réjouir de ce que nous avons. Ici, en Occident, dans nos pays riches, nous ne sommes pas du tout heureux ni satisfaits. Nous en voulons encore davantage et tout ce que nous possédons tombe, comme dit la Bible, dans un sac percé. Dans ces pays en voie de développement, on cherche, on veut vivre. On crie au secours. On ne se suicide pas. En Somalie, imaginez, non. On ne se suicide pas au Sahel, ni dans ces pays vraiment où l'on meurt tous les jours de ne pas assez manger. Et dans notre Occident, on meurt aussi, mais trop manger. Quel drôle de monde vivons-nous, n'est-ce pas? Et dans notre richesse, nous perdons très souvent le goût de vivre, disais-je. Que de suicides en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Suède, où le niveau de vie est élevé et où l'homme aurait réellement de quoi, au plan matériel, être parfaitement satisfait, j'allais dire. Il ne l'est pas du tout. Oh, quand on nous dit qu'en Allemagne, l'on dénombre une tentative de suicide toutes les 3 minutes, qu'est-ce qui arrive aux Allemands? Un suicide réussi toutes les 40 minutes. Ils se sont certainement trompés de direction. Si un Allemand en arrive au chômage, ben, il est assuré d'une indemnité, un Belge aussi, un Français aussi. Mais aller dans ces pays, pas même comme ceux de la Somalie ou du Sahel, il n'y a pas d'indemnité de chômage. Quand vous perdez votre travail, vous ne savez plus comment vivre. Tandis que dans nos pays, on nous assure au moins du minimum. Mais je dirais que ce qui est évident, c'est que dans nos pays riches, plus nous nous remplissons les mains, et plus nous nous vidons le cœur. Plus nous nous remplissons les mains, et plus nous nous vidons le cœur. Jean Jaurès, un homme de la gauche en France, des premières années 1900, et dont j'avais été voir la maison à Castres, dans le Midi, un jour que j'y tenais là-bas une série de conférences, Jean Jaurès a pu dire ce qui suit, lui qui a été un tribun, un orateur tout à fait remarquable. « Je ne crois pas du tout, a-t-il dit, que la vie naturelle et sociale suffise à l'homme. Dès que l'homme aura dans l'ordre social, alors j'ajoute ce qui suit s'il devait y arriver un jour, dès qu'il aura établi la justice, il s'apercevra qu'il lui manque encore un immense vide à remplir, un immense vide à remplir. Nous parlions justement de vide intérieur tout à l'heure en disant que plus nous nous remplissons les mains et plus nous nous vidons le cœur. Et ce même Jean Jaurès, socialiste, fondateur du journal L'Humanité, bien qu'il n'ait pas été communiste, a pu aussi dire ce qui suit: le jour où vous aurez donné à l'homme de quoi vivre largement au plan matériel, vous n'aurez pas encore fait son bonheur, car il existe des biens non matériels, des biens spirituels, dont il ne saurait se passer. Il semble que Jean Jaurès, en son temps, avait compris que l'homme ne pouvait pas vivre de pain seulement. Oh, bien avant lui, Jésus avait dit ce qui suit dans une parole que nous connaissons tous, en Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi encore? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que si l'homme peut éprouver là une faim, la faim au plan physique, il éprouve aussi une faim d'un autre ordre, une faim spirituelle, la faim de son âme. Et seul Dieu peut réellement combler un homme dans son cœur et dans son âme. Quelqu'un avait même qualifié justement notre Occident. Il s'agit d'un Occident qui connaît la faim dans l'abondance. Tout à fait cela. La faim dans l'abondance. Si nous n'étions en tout cas en Occident que de chair et d'eau, comme beaucoup le disent aujourd'hui, Dieu n'existe pas. Nous ne sommes que matière. Au commencement était la matière. Et un jour nous retournerons à la matière et puis c'est tout. Mais si nous n'étions que de chair et d'eau, que matière, nous aurions quand même de quoi être satisfaits dans cet Occident où explose l'abondance et qui connaît une consommation faramineuse. Eh bien, pas du tout, justement. Parce que l'homme n'est pas un être unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement physique. Il y a une autre dimension chez lui, qui est justement sa dimension spirituelle. Et lorsque lorsque l'homme ne veut vivre qu'au plan matériel, il se prive de cette autre dimension que Dieu lui a voulu pour le combler intérieurement. D'où précisément ce vide intérieur qu'il éprouve. Vous savez que nos savants aujourd'hui se penchent de plus en plus sur ce vide intérieur qu'éprouvent les hommes, surtout dans les pays riches, qui connaissent un niveau de vie élevé. Alors il est important de savoir, de réfléchir au mal dont nous souffrons. Et pour pouvoir y répondre de la meilleure façon, commençons par poser la question, vous êtes quoi ? Je suis quoi ? Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Pourquoi notre présence sur cette terre ? Pourquoi cette terre ? Pourquoi notre présence sur cette terre ? À quoi devons-nous servir ici-bas ? Y a-t-il un sens vraiment à donner à notre existence ? Évidemment, l'approche, elle est irrésistiblement philosophique, alors nous allons tâcher d'y répondre sans toutefois, j'allais dire, entrer dans une haute voltige philosophique, pas du tout. Mais nous tâcherons de garder les pieds bien sur la terre. Mais écoutons par exemple un homme, un poète français, qui a vécu à Grenoble. Je visite la ville de Grenoble très souvent. Stendhal. Et qui écrivit ce qui suit. Je ne me connais point moi-même. Écoutez bien cet homme. Hein. Et c'est ce qui, quelquefois, la nuit, quand j'y pense, me désole. Je ne me connais point moi-même. Franchement, ami, est-ce que vous vous connaissez ? Moi, j'ai mis le temps à me connaître. Réellement, j'ai mis le temps à me connaître. Mais, irrésistiblement, la vie est absurde quand elle passe à côté de son vrai sens. C'est précisément ce qui nous arrive à tous, dit Dieu. Oh, Jésus a dit, il y a deux routes. La première est large, Matthieu 7. Et beaucoup entrent par là. Et c'est la route qui mène à la perdition. Tandis qu'il a ajouté, étroite est la porte, étroit est le chemin qui conduit à la vie. Et parce que nous ignorons ce que nous sommes, notre vie donc manque de sens, elle tourne en rond, nous errons ici-bas, nous n'arriverons pas à nous donner une définition. Alors, parlons de crise d'identité. Il y a quelques années à Lausanne, lors d'une grande exposition, il me semble qu'il s'agissait du palais de Beaulieu là, on avait présenté la machine à rien faire. Vous vous souvenez de cela ? Certainement que ceux qui ont là, ils ont un certain âge comme le mien, un âge certain, encore que je sois jeune, doivent s'en souvenir parce que cette machine à rien faire avait défrayé la chronique. Quand tout à coup vous arriviez devant cette machine, vous posez la question, c'est pourquoi faire ? Une machine qui ne sert à rien. Mais un ingénieur l'a mise au point pour qu'elle fasse tuff tuff, hein. Et souvent l'homme en est là. Son cœur bat, son esprit travaille. Il vit au plan physique. Mais il se demande réellement à quoi il doit servir. Ce qu'il est et pourquoi quelqu'un l'a-t-il voulu sur cette terre ou bien résulte-t-il du hasard? Mais ça c'est une question fondamentale. Tant qu'elle n'est pas résolue cette question, impossible d'aller plus loin. Vous pouvez vous gaver de n'importe quoi, vous donner le meilleur confort. Je cite souvent l'exemple qui suit. Prenez un bébé. Accordez-lui tout le baby-confort dont un petit bébé de Somalie peut rêver. C'est-à-dire du bon lait, une belle chambre, de beaux jouets, etc. Privez-le de l'affection d'une maman, de la présence d'une maman. Vous en faites un monstre. Parce qu'il a besoin, cet enfant, de beaucoup plus que de bon lait, d'une belle chambre et de beaux jouets. Et on en a vu passer chez nous 54 comme ça, hein. Pas à la fois, hein. Des enfants, oui, hein, dont les parents n'ont pas voulu qu'arriver chez nous, qui avaient tout eu par l'assistance publique. Cet organisme qui a changé de nom et qu'il est convenu d'appeler l'ADAS en France maintenant. Ils avaient eu du bon lait dès leur naissance, de beaux jouets, de belles chambres, tout, sauf l'aliment essentiel, hein, l'affection d'une maman. Ils en avaient été perturbés, mais ainsi en est-il de l'homme. Gavez-le au plan matériel de tout ce que vous voulez. Privez-le de l'affection de son Père Céleste. Qu'il soit coupé de lui, il ne sait plus ce qu'il doit faire sur cette terre. Il est dépassé par les événements. Il entre dans une angoisse que nos philosophes appellent l'angoisse existentielle. L'angoisse de l'existence. Bien entendu, c'est angoissant, parce que quand Dieu n'existe plus, qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Nous nous souvenons de ce qu'a dit un jour, de ce qu'a écrit Saint-Exupéry un jour au général X. Textuellement ce qui suit, n'est-ce pas? Nous ne pouvons plus vivre de frigidaire, de mots croisés. Il faut rendre aux hommes une signification spirituelle. Il faut absolument que les hommes retrouvent, en quelque sorte, soient replacés sur orbite, retombent sur leurs pieds et apprennent à savoir qui ils sont. Alors, que sommes-nous? Socrate déjà disait en son temps, hein, il y a tellement de temps, connais-toi toi-même. Ceci avait résumé toute sa philosophie. Alors Alain Chouaquet, lorsqu'il était jeune homme, allait aux études, avait vraiment cherché à comprendre ce qu'il était. Alors j'avais consulté tant et plus d'encyclopédies, et puis j'avais lu tant et plus de philosophes, de bouquins, qui m'avaient laissé sur ma faim de me connaître moi-même. Alors, je n'ai pas cherché Alain Chouaquet dans le dictionnaire, je n'y suis pas, hein. Mais j'ai cherché une définition de l'homme. L'homme, c'est quoi? Alors, voilà ce que mon dictionnaire m'avait dit. Mammifère. L'homme. Mammifère. Bipède, de pied. Biman, de main. Capable d'industrie, c'est moins sûr chez moi. Et doué de parole. Voilà donc très exactement la définition de nos encyclopédies. Mammifère, bipède, bimane, capable d'industrie et doué de parole, ami, rentrez chez vous et puis essayez de vous satisfaire de cette définition vous concernant. Franchement, est-ce que vous pouvez l'être? Ça n'est pas possible. Alors l'homme, c'est quoi? Bien sûr que c'est un mammifère, oh, c'est clair. Il a deux pieds et deux mains. Il est capable d'industrie par ce génie dont il a fait preuve depuis le commencement. Et puis, il a été doué de parole. Nos scientifiques disent couramment que l'homme est une affaire au plan biologique parfaitement programmé. Dans le schéma de croissance depuis l'instant de sa conception dans le sein maternel, jusqu'à la blanche vieillesse, il y a là un schéma biologique de programmation tout à fait stupéfiant. Et c'est en effet stupéfiant. Mais beaucoup, devant ce miracle de la vie, eh bien, versent dans le fatalisme parce qu'ils disent, en fait, on entre comme dans une sorte de moule sans pouvoir s'en sortir, le quitter pour faire autre chose. Oui, beaucoup donc ne sont pas satisfaits de ce que nous soyons une affaire bien programmée au plan biologique. Skinner, le docteur Skinner, un psychologue américain de renom, dont j'ai lu quelques paroles comme cela, lui a dit ce qui suit. C'est un spécialiste des états d'âme. Il a dit ce qui suit, l'homme n'existe pas. Voilà, vous pouvez être satisfait, hein. Je ne sais pas de ce qu'il peut penser, ce Skinner de ses patients qui viennent le voir. Lui dit, l'homme n'existe pas. Toute notre erreur a été de l'avoir inventé. Un super moulin à café, il ne voit pas d'autre, j'allais dire, définition pour l'homme. Alors quand j'ai pu lire ça une fois dans un avion qui m'emportait vers l'Amérique du Nord, je m'étais dit, mais en fait, il a peut-être raison, un super moulin à café, voilà qui explique pourquoi nous broyons du noir, hein. Nous sommes comme le moulin à café, là, avec nos angoisses, avec notre mal de vivre, nos problèmes, nos difficultés, etc. Mais quand même, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette définition. Et nous en sommes encore à tourner en rond. Voilà tout ce que nous disent les âmes. Ah, pour Karl Marx. Et nous avons parlé ici, il y a un an, de la chute du communisme en même temps que du sauveur qui a caractérisé, sauveur temporel qui a caractérisé la personne de Karl Marx, qui avait un message pour l'homme, un message bien entendu matérialiste. Et que il s'était opposé au vrai sauveur, au véritable sauveur, le Christ, et qu'ils ont été tous les deux juifs qui pendant longtemps se sont partagés le monde. Pour Karl Marx, l'homme se crée lui-même. Il a émergé de la contradiction. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si nous pourrons jamais saisir ce qu'il a voulu exprimer par là. Mais ce qu'il a ajouté qui est intéressant et que nous ne pouvons pas accepter Bible en main, pris seul, l'homme est une unité économique dans la grande machine industrielle. Voilà. Et il se résume à cette expression homo faber, l'homme qui fabrique. Voilà. L'homme, c'est sa définition. Il ne faut pas voir plus loin. Et dès que l'homme ne fabrique plus, il n'a plus lieu d'être sur la surface de la terre. Et c'est en réalité le travail qui épanouit l'homme, dans une certaine mesure, bien entendu, que c'est vrai. Mais quand on ne voit plus que par le travail, et quand le travail prend tout le sens de l'existence, ça ne va plus non plus. Encore que le travail, c'est Dieu qui l'a institué, et non pas l'homme. Alors, sans dépasser sa pensée, nous pouvons dire que pour Karl Marx, l'homme a eu pour mère la contradiction. Il est sorti de là. Pour un éminent savant, anciennement président de l'Institut Pasteur à Paris, le grand docteur Jacques Monod, pour lui, non, l'homme a eu pour père le hasard. Il est issu du hasard. Et il a écrit un livre qui a ébranlé la conscience chrétienne il y a quelques instants et qui s'est intitulé « Le hasard ». Et la nécessité. C'est-à-dire que si l'homme est sur la terre, ça a été par pur hasard, mais ça a été aussi une nécessité. Allez chercher à comprendre, ça n'est pas évident. Alors, voilà ce que j'ai pensé moi-même à propos de mère contradiction et de père hasard. Le fâcheux mariage entre le père hasard et la mère contradiction ont produit, disent les hommes couramment, l'accident que vous êtes. L'accident que je suis, un accident biologique, cet accident que j'ai cru, moi j'ai cru que j'étais un accident biologique aux études, hein. Je versais dans l'athéisme, parce que Jean Rostand un jour a écrit ce qui suit, L'homme est accident entre les accidents et il traverse la vie dans l'épouvante de la mort. Franchement, est-ce que ça nous satisfait, ça? Alors, inquiet de savoir ce que mon dictionnaire disait à propos d'accident, on m'a dit que j'étais un accident. Je cherchais dans le dictionnaire ce que ça veut dire, le mot accident. Savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai tout de suite compris pourquoi les hommes ne sont pas heureux. Accident, dit mon Larousse, égale événement généralement malheureux. On n'en sort pas avec ce que les hommes nous disent de nous-mêmes. Mais quand on y réfléchit quelque peu, à la vie sous toutes ses formes, quand on réfléchit aux galaxies qui se comptent par milliards, quand on réfléchit à la Terre, à ses mouvements, des planètes autour de la Terre autour du Soleil, etc. Mais on a de quoi être absolument stupéfait. Est-ce que toutes ces choses ne nous parlent pas d'un être supérieurement intelligent, d'un génie fondamental à l'origine de toutes ces choses? J'ai été assez aveugle, personnellement, pour dire non. Par exemple, quelqu'un disait ce qui suit. Expliquer la mise en place et l'organisation du cerveau humain, du vôtre, du mien, par le seul hasard, comme disent les hommes, revient à dire qu'en connectant au petit bonheur et n'importe comment tous les fils d'un central téléphonique d'un milliard d'abonnés, tout marcherait bien. Nous ne pouvons pas le penser, et c'est pourtant cela votre cerveau, le mien. Mais nous sommes assez aveugles pour dire « c'est venu tout seul » et nous voulons l'affirmer. Nous voulons absolument affirmer que tout est là, tout seul, que personne n'a rien créé, que nous sommes issus du hasard. Oh, je pourrais encore vous dire ce que les hommes, au plan biologique, ont dit de nous. L'homme, c'est quoi? On ne fait pas le poids pour finir. Hein. 66% d'eau. De l'eau. H2O, 16,8% d'albumine, 10,5% de graisse quand il n'est pas trop obèse, 5,5% de cendre, 1,2% d'hydrate de carbone, voilà. Voilà ce qu'est l'homme au plan chimique. On fait quand même pas le poids. Mais vous conviendrez avec moi qu'on est beaucoup plus que cela. Ça n'est pas notre définition. Je vous livre comme cela, quand même parce que notre sujet le demande. Certaines définitions données par de grands hommes de notre temps ou de temps passé. L'homme, disait quelqu'un, considéré biologiquement, est la plus redoutable de toutes les bêtes de proie. Est vraiment la seule qui dévore systématiquement sa propre espèce. J'avais bien aimé ça. Hein. Quand on pense que dans ce siècle-ci qui tire à sa fin, l'homme, par le moyen des guerres, aura fait passer de vie à trépas, vous êtes bien assis, attachez vos ceintures, 100 millions d'êtres humains. Puis les guerres ne sont pas finies, hein. On n'est pas encore à la fin du siècle. Oui, l'homme, un prédateur, le plus redoutable de toutes les bêtes de proie. Alors on peut se poser la question, mais comment en sommes-nous encore à croire dans l'homme? 100 millions jamais, par exemple, dans notre siècle, autant d'humains ont été tués par des cataclysmes naturels, par des pestes. Ou par autre chose, c'est l'homme qui réellement a évacué le plus d'individus de cette terre. Comment lui faire confiance? Et puis, d'autres réflexions encore à propos de l'homme. Jean Rostand, que je citais tout à l'heure, écrivit ce qui suit dans les pensées d'un biologiste que j'ai à la maison. L'homme étouffe dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme sait qu'il est plus que ce qu'il est. En d'autres termes, il devrait vivre autre chose que ce qu'il vit couramment. Il étouffe là, à l'intérieur de lui-même. Et c'est peut-être votre sentiment. D'où cette impression que les hommes éprouvent couramment l'impression de passer à côté, de vivre à côté, qu'il y a autre chose à vivre. Mais quoi? Où? De quelle façon? On ne sait pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, oui, il y a véritablement autre chose à vivre. Alors, que nous dit-on couramment? Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Qu'est-ce que mes enfants m'ont dit? Alors, avec cette question, n'est-ce pas, du papa, qu'est-ce qu'on a dit à l'école que vous êtes? Ça touche encore à la définition de l'homme. Nous sommes issus de la bête. Que pour commencer, il y avait le radiolaire marin. Il est passé ensuite au stade du poisson. Puis le poisson est passé sur la terre. Il s'est mis à ramper. Ça a donné donc le serpent, le crocodile, etc. Et puis ces êtres ont commencé de monter sur les arbres. Et à force de sauter d'une branche à l'autre, leurs écailles se sont transformées en plumes. Ça, je vous dis très exactement ce qu'enseigne la théorie de l'évolution. Heureusement qu'on la conteste maintenant et que l'on dit « on s'est trompé ». J'ai des documents tout récents parus dans de grands hebdomadaires français, mais tout ceci, bien entendu, est complètement stupide. Mais nous l'avons cru en moi. Je le cite au passage. Nous avons gobé des choses qui ne tiennent pas debout. Alors ensuite est apparu, après toutes ces choses, l'homo erectus. Dès que la bête a pu se tenir debout, l'homme debout, l'homo erectus. Oui, et puis ensuite il est devenu l'homo habilis. L'homme capable de commencer de faire avec ses doigts. Puis de l'homo habilis, il est devenu l'homo sapiens. Parce que doté du langage articulé, voilà ce qu'on nous enseigne à propos de la théorie de l'évolution. L'homo, ensuite de l'homo sapiens, il est devenu l'homo faber, l'homme qui fabrique. Puis de l'homo faber, parce que fabriquant tellement, j'entendais dire un homme politique cette semaine en France à propos de Maastricht, vous suivez quelque chose, vous y êtes? Nous produisons trop en France pour ne pas que nos frontières tombent. Nous ne saurions que faire de tout ce que nos usines fabriquent. L'homo faber, qui a bien entendu engendré quoi? L'homo, ça c'est moi qui le dis. L'homo boulimus, c'est l'homme atteint de boulimie, c'est-à-dire l'homme qui consomme encore, qui consomme toujours, mais qui doit consommer pour faire tourner les machines. Oh, si vous saviez ce qui se passe dans les entreprises, Et la vie qu'on peut mener aux vendeurs, Peut-être des vendeurs ici, des représentants, arrangez-vous, faites ce que vous voulez, mais il faut que ça parte parce que nos machines sont derrière vous. Ouais, vous en avez qui entrent en dépression avec cela. L'homo boulimus. Alors, pour que l'homo boulimus puisse réellement, j'allais dire, fonctionner normalement, on lui crée des besoins. Il faut qu'on lui crée encore et toujours des besoins. Si on ne lui crée pas de besoins, les machines s'arrêtent. Le chômage augmente, la crise économique devient de plus en plus aiguë. Et puis l'homo boulimus a donné naissance à un autre mot. Ça, c'est ce mot savant qui le disent, l'homo technicus. Aujourd'hui, il faut être un technicien, sinon on disparaît. L'homo technicus, et on ne nous a jamais parlé autant qu'aujourd'hui de télématique, de robomatique, d'informatique. Nous sommes bourrés de tic. Aujourd'hui, avec tous ces progrès, pour nous satisfaire, certes, on ne dit pas qu'il y a quand même vraiment des choses tout à fait savoureuses dans toutes ces inventions. Mais à vrai dire, elles ne peuvent pas nous satisfaire jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et puis, on voit maintenant se profiler à l'horizon l'avènement d'un autre mot, hein, que j'appellerai pour ma part l'homo extinctus. Oui. Cet homme qui risque maintenant de disparaître définitivement de la planète Terre. Savez-vous que par simplement ce qu'il est convenu d'appeler la pollution, nous sommes menacés d'extinction? Il me semble l'avoir dit ici il y a peu de temps, enfin en tout cas au moins un an ou sinon deux. Aujourd'hui, ce n'est pas l'arme nucléaire qui nous menace, c'est la pollution. L'homo extinctus, nous en sommes là. Alors, quelle réponse? Il faut affirmer ce qui suit. Aucun dictionnaire, aucune encyclopédie n'a jamais donné une définition satisfaisante de ce que vous êtes, de ce que je suis. Alors, quelle est l'autorité qui peut nous renseigner? Quelle est l'autorité qui peut nous tenir le langage de la vérité dans ce grand domaine? Dans quelle direction aller? Vers qui regarder? La Bible. La parole de Dieu, mais quel livre! J'étais à Lausanne la semaine dernière. Je suis allé voir le tabernacle. Le tabernacle qui a été dressé à Lausanne. Oh. Exactement dans les dimensions du tabernacle de l'Ancien Testament. Et puis là, nous avions affaire à des spécialistes qui nous promenaient d'un endroit à un autre. Si vous aviez quelques jours, prenez le temps d'aller jusque là-bas, ça vaut la peine. Hein. Et vous verriez ce tabernacle tel que le juif, l'israélite l'a vu en son temps, voilà, tellement d'années, tellement de siècles. Et il y avait une affiche bien en vue qui disait quoi? Aujourd'hui, quelque 3 milliards de Bibles circulent sur la surface de la terre. La Bible, la parole de Dieu. C'est le livre qui justement nous tient le langage de la vérité. Alors, que nous dit ce livre? Oh, reprenons les choses par leur début. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Oh, ceci est écrit en Matthieu 19, repris par le Christ lui-même. Le Christ l'a cru! Et ces hommes que nous sommes, qui se disent chrétiens de près ou de loin, n'arrivent pas à le croire. Le Christ l'a cru. Il a dit en Matthieu 19, par exemple, mais n'avez-vous pas su qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme? Alors, il n'y a pas eu d'homo erectus, d'homo ceci, habilis, sapiens, etc. Non, non, non. On nous dit que l'homme vient de la bête, et souvent, c'est la question qui m'est posée. Ne croyez-vous pas vraiment que nous descendons de la bête? À cela, je réponds non, 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 non. Bible en main. Nous allons de plus en plus vers la bête. Oui, alors ça, oui. Mais nous ne descendons pas de la bête. Et puis, souvent, j'ajoute aussi ce qui suit. Humanité sans divinité souvent devient bestialité. Voilà pourquoi nous vivons des moments tellement difficiles. C'est un éminent théologien, un russe, d'il y a quelques années, qui a dit ce qui suit. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Humanité sans divinité finit précisément dans la bestialité. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit que ce nom d'homme, nous le tenons de Dieu lui-même. Genèse 5, 2, où nous trouvons ce qui suit. Ça n'est pas l'homme qui s'est donné ce nom. C'est Dieu qui a donné à l'homme, justement, cette appellation d'homme. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et il écrit, il les bénit, et il les nomma, justement, homme, du nom d'homme. Et puis, la Bible dit que Dieu a fait l'homme comme la plus remarquable de toutes ses créatures. La plus extraordinaire, la plus merveilleuse. D'ailleurs, David l'a dit dans un psaume. Hein, à son Dieu dans une prière. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et pourquoi l'homme a-t-il été la créature la plus merveilleuse que Dieu ait faite? Parce que seul fait en image de Dieu. La seule qui ait été faite en image de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous savez, l'homme est le seul être à avoir été doté d'une conscience. Et sa conscience en lui, c'est quoi? C'est déjà la possibilité de se savoir homme, de se connaître homme, et cette perception qu'il peut avoir de lui-même. Moi, je ne pense pas, j'ai vu des vaches cet après-midi. Bon, en les regardant, ces vaches, sur une herbe bien verte, dans des beaux pâturages, je ne pense pas que la vache, j'allais dire, a vraiment cette perception d'elle-même. Même si de temps en temps, couchée comme cela, l'air dans le vague, elle donne l'impression de réfléchir. Non, elle rumine. Hein? Elle rumine. Mais l'homme, lui, a été fait en image de Dieu, doté d'une conscience, d'une intelligence. Doté d'une volonté, d'une imagination, de ce qu'il est convenu aussi d'appeler la mémoire, seul fait en image de Dieu. Et la Bible dit encore ce qui suit, que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité, mais dans le texte hébreu, le mot pensée n'y est pas. Et nous devrions, c'est pour par souci de rendre en bon français que Nos traducteurs ont mis la pensée de l'éternité, mais en réalité, nous trouvons textuellement ce qui suit. Dieu a mis dans l'homme l'éternité. Ah, nous y voilà. L'éternité est en vous, mon ami. L'éternité est en moi. Et vraiment, est-ce que vous pouvez remplir cette éternité en vous, j'allais dire, d'un bon McDonald's? Hein? D'un cheeseburger ou d'un Big Mac, mais ça n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez remplir ce besoin d'éternité, l'éternité en nous? Est-ce que vous pouvez remplir ça avec une belle maison, une belle voiture? C'est pas interdit, hein. Au contraire, le Seigneur se plaît à nous bénir sur ce plan-là. Et très souvent, nous ne savons pas lui dire merci. L'éternité est en nous! Nous avons été créés pour vivre éternellement. Alors vous ne pouvez pas satisfaire ce besoin avec une explosion matérialiste qui passe. Il nous faut autre chose. Voilà pourquoi l'homme étouffe dans l'homme. Mais Jean Rostand n'a pas compris. Il n'en est pas sorti de ces questions. Bien que protestant, l'homme étouffe dans l'homme. Un auteur anglais s'inspirant d'une pensée de Pascal a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, mais un vide que seul Dieu peut remplir. » Seul Dieu peut le remplir. Je vous pose la question, Dieu a-t-il rempli votre vide intérieur? Et c'est la réponse que réellement la Bible donne. Nous avons soif d'autre chose que d'explosion matérialiste. Et voilà pourquoi la Bible dit au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Le livre de Job dit ce qui suit en Job 20-22. Au milieu de l'abondance, nous sommes dans la détresse. C'est ce qui caractérise encore notre génération. L'homme a besoin d'une existence, dit la Bible, faite d'amour, d'harmonie, de plénitude. Alors qui peut répondre à ces besoins fondamentaux d'harmonie, d'amour, de plénitude? Vous allez voir un gourou, il va vous dire « commencez par faire le vide ». Par le yoga, la méditation, avec le Seigneur on fait le plein. Ah, c'est toute la différence. Et la Bible dit qu'en Christ, il y a toute la plénitude de la divinité. Et que l'on peut être réellement, pleinement satisfait dans une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui se poursuit dans une relation avec lui. Oh, la Bible dit, c'est lui qui l'a dit, « Je suis la vie ». Alors on court à droite, on court à gauche, mais parce que nous sommes animés d'un préjugé défavorable vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis de Dieu, je le dis souvent aux étudiants sur les campus universitaires, c'est un préjugé défavorable qui nous pousse à aller chercher ailleurs qu'en Jésus-Christ, sous prétexte que ceci, que cela. Mais reprenez simplement, dans une démarche tout à fait honnête, les déclarations et l'enseignement de Jésus-Christ. Il a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » C'est fou comme parole, pas un homme n'a jamais parlé comme cela. « Je suis la vie, je suis le chemin. » On cherche un chemin. « Je suis la porte. » Ah, on cherche une porte de sortie à nos problèmes sans la trouver. Ben, Jésus est cette porte de sortie. Il est la porte du salut. Il a dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Alors, disons ce qui suit. Nous ne sommes pas, sans Dieu, des hommes, des femmes, comme Dieu les a voulus à l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des hommes et des femmes manqués, disons-le, manqués. Nous sommes passés à côté. Et nous en arrivons à la définition, justement, radicale et biblique du péché. Péché en grec signifie quoi? Passer à côté. Manquer le but, manquer la cible, que d'hommes et de femmes ont le sentiment, justement, d'avoir manqué leur vie. C'est peut-être ce qui vous caractérise, je n'en sais rien. Mais que d'hommes et de femmes nous le disent, nous l'écrivent, suite au message à la radio. Oui, voilà la vie qui est la mienne. Il y a certainement autre chose. Certainement autre chose. Textuellement en grec, péché égal, passer à côté. Manquer. Manquer. Vous savez, le terme péché en grec n'a pas une connotation religieuse. Un grec, par exemple, en cherchant cette salle, l'adresse, et en se perdant dans le coin, aurait dit « j'ai manqué la rue », il aurait dit « j'ai péché », tout simplement. En jouant aux boules, et en manquant le petit, comme on dit, eh bien on passe à côté, on a péché. Péché, c'est passer à côté, c'est manquer, c'est louper. Je pose une question, mon ami, votre vie. Est-ce que vous l'avez manqué, ou l'avez-vous réussi? Oh, et que de manquements, justement, qui manifestent que c'est l'échec dans bien des domaines. Le travail, hein, la vie professionnelle, la vie familiale, je pose la question. Hein. Mais que de crises nous vivons. Hein. À Paris, nous savons qu'un mariage sur deux ne tiendra pas. Beaucoup ça, hein. 1 sur 3 en province. Voilà qui explique la venue du Christ sur cette terre, pour nous rattraper sur nos voies de perdition, pour nous remettre sur la route, pour nous replacer sur orbite, pour nous sauver. Je le bénis qu'il m'ait rattrapé, moi, à l'âge de 18 ans. J'avais 41 ans, tiens. Un peu plus. Vous faites un petit calcul, vous y êtes. Il est venu pour nous rendre notre vraie définition d'homme. Oui, il est venu pour faire de nous de vrais hommes, comme Dieu les veut. Parce qu'il a été, lui, l'homme par excellence, vous allez dire les talons humains, qui nous a été donné en exemple. Et quand il nous a été donné, c'est comme si Dieu avait voulu nous dire, voilà, l'homme tel que je le conçois, vivez comme lui, vous changez la terre.